Anne Verdaguer pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous. On revient aujourd'hui sur la large victoire du candidat d'extrême droite au premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Il sera opposé au second tour au candidat du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad. Un duel des extrêmes donc et un choc entre deux conceptions de la société brésilienne. On en parlera avec notre invité Hervé Théry, directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l'Université de Sao Paulo. Un séisme en Haïti hier a fait 12 morts dans le nord-ouest du pays. La secousse d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter a créé la panique. On entendra le témoignage d'un médecin de l'hôpital de Port-de-Paix qui a été dépassé par le nombre de blessés et qui manque cruellement de moyens. À la une du journal Outre-mer, le problème des algues sargasses, encore et toujours, les aires d'épandage et de séchage se multiplient en Guadeloupe. Ce sont donc deux conceptions complètement opposées du Brésil qui s'affronteront pour le second tour de l'élection présidentielle après la victoire hier au premier tour du candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, avec plus de 46% des voix et derrière lui, celui du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad, avec 29% des voix. C'est la première fois depuis le retour de la démocratie au Brésil que l'extrême droite arrive au second tour d'une élection présidentielle. Bonjour Hervé Théry.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l'Université de Sao Paulo. Vous êtes actuellement. Alors, quelle réaction tout d'abord face à ce résultat et à cette large victoire pour Jair Bolsonaro?
Alors d'abord, un certain soulagement, puisqu'on a cru jusqu'à au dernier moment qu'il y aurait peut-être un passage au premier tour, ce qui aurait perturbé largement la suite. Et, par ailleurs, une impression à la fois d'un basculement à droite, mais qui est pas justifié du tout par l'adhésion de la moitié de la population brésilienne au thèse d'extrême droite. Je trouve que c'est vraiment un rejet massif, ce qu'on a appelé ailleurs du dégagisme, un rejet massif de la politique telle que c'est faite jusqu'à présent. Et donc beaucoup de gens sensés, éduqués, etc., se sont mis à voter pour quelqu'un qui est très loin de leurs idées, juste pour se débarrasser de ceux qui étaient là avant. À la fois pour barrer la route à un retour du PT qui ne supporte pas, mais en même temps un désaveu des autres politiciens de droite et de centre-droit.
Alors Jair Bolsonaro, je vous coupe un instant Hervé Théry, Jair Bolsonaro qu'on va entendre dans un instant parce qu'il se croit lui déjà vainqueur, il a appelé en tout cas hier au rassemblement avec le centre-droit, on l'écoute.
Não queremos a volta desse tipo de gente.
Nous ne voulons pas le retour de ce genre de personnes. Le Brésil a une expérience de 13 ans avec eux, avec ce qui est le pire en politique, avec l'héritage que nous voyons ici. Nous avons vu la destruction des valeurs de la famille qui a vu plonger le pays dans une crise éthique, morale et économique jamais vue. Nous ne pouvons plus faire un pas vers la gauche, nous devons marcher ensemble vers le centre droit.
Hervé Théry, on l'a entendu, Jair Bolsonaro qui a parlé de cette crise économique. Est-ce que ce sont ces arguments, en tout cas, qui l'ont fait se rallier la majorité de la population?
J'ai entendu qu'il a dit, si j'ai bien entendu, économique, éthique et politique. Je crois que c'est plus les deux derniers qui sont vrais. C'est un rejet vraiment épidermique et même profond. Des gens contre la corruption, contre un certain nombre de choses qu'ils considèrent comme des déviations. Il y a beaucoup été question de la distribution dans les écoles d'un kit gay, ce qui est évidemment absurde. Les études de genre, toutes sortes de choses, ont hérissé les catholiques traditionnels, toutes sortes de gens. Donc je pense qu'il y a en plus un rejet éthique et politique. L'économie a sorti de la récession, elle va un peu mieux, ça va à peu près correctement. Il y a vraiment un rejet épidermique, je pense.
Est-ce que le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, pourra, comme il l'a dit dans cet extrait, rallier le centre droit dont il a peut-être besoin, ou pas d'ailleurs, pour gagner ce second tour?
C'est déjà largement le cas. Il n'y a sûrement pas 46% des gens d'extrême droite au Brésil. Donc il a déjà mordu largement sur cet électorat. On a bien vu que les candidats qui devraient normalement porter ces drapeaux-là se sont effondrés. Gérard Alckmin, qui était présenté un peu comme déjà élu, un peu à manière de François Fillon à un certain moment en France, a fini à 5%. Et donc, quand on est à 46, il n'y a pas besoin de mordre beaucoup pour arriver à 50.
Et est-ce que vous pensez que Jair Bolsonaro va tout de même mettre un peu de l'eau dans son vin et garder un profil bas pour ce second tour, ou alors il va continuer son discours jusqu'à présent assez autoritaire et ultra-conservateur?
Il va se remettre à parler parce que là, il avait disparu à cause de l'attentat dont il a été victime. Ça lui a sans doute rendu service, parce que s'il avait été présent dans les débats, il aurait sans doute dit des bêtises qui l'auraient desservi. Et là, les premières déclarations qu'il a données sur Internet, il n'a pas répondu à la presse, donnent à penser qu'il a envie d'essayer de se contenir et de donner une image plus lisse, mais on va voir ce qu'il arrive à faire.
Alors là...
J'ai personnellement du mal à savoir, s'il parle par conviction ou par calcul. Beaucoup de journalistes disent que quand on le rencontre, il n'est pas du tout sur le même registre et qu'il prévient à l'avance les journalistes qu'il va faire un scandale. Donc il y a probablement une partie de jeu dans ses excès.
Hervé Théry, la gauche, elle, de son côté, va devoir sans doute, va avoir encore beaucoup plus de mal pour rassembler. Quelle sera sa stratégie, pensez-vous, pour ce second tour des élections au Brésil ?
Elle est vraiment très loin, parce que quand on est à 30%, il faudrait vraiment rassembler 20% des électorats, ce qui est difficile. On peut prévoir qu'ils vont faire une stratégie de front républicain, tout contre lui, tout sauf lui, essayer de jouer les valeurs républicaines, ce qui est logique et correct. Mais c'est un peu ce qu'Hillary Clinton a essayé de faire, c'est ce qu'on essaie de faire dans les cas où on voit arriver quelqu'un de ce genre-là. Là, l'arithmétique est un peu cruelle, je ne vois pas, vraiment pas, et les observateurs que j'ai lus ce matin disent la même chose, comment il peut rassembler 20% de voix en plus en 3 semaines.
Hervé Théry, le candidat de la gauche, Fernando Haddad, doit faire le voyage à nouveau aujourd'hui vers Curitiba, où il verra son mentor, l'ex-président Lula, qui, on le sait, purge une peine de prison de 12 ans pour corruption. Est-ce que la corruption joue, et bien sûr, en ce qui concerne la gauche, mais aussi la droite, dans cette élection ?
Sans aucun doute, c'est une des motivations principales du rejet de la classe politique, dont on voit de plus en plus tous les jours qu'elle était corrompue vraiment massivement, c'était vraiment systémique. Et donc ça joue dans le rejet du Parti des Travailleurs, du PT, mais aussi dans d'autres. On a eu ce matin la liste des gens qui sont tombés hier. Énormément de leaders bien installés de la droite n'ont pas été réélus. Le président du Sénat, le leader du gouvernement, beaucoup de gens de haut niveau, n'ont simplement pas été réélus sénateurs ou gouverneurs. Donc il y a vraiment un nettoyage de toute une génération et de toute une classe politique en cours. Et on a vu par contre élire des gens dont on ne savait rien jusqu'hier, notamment des gens proches de Bolsonaro et qui jouent sur la carte de l'insécurité. À côté de la corruption, c'est l'autre thème fort.
Et une réaction également des électeurs par rapport à ce grand parti de gauche qui a remporté les 4 dernières élections, qui a été au pouvoir depuis 13 ans, c'est ce dégagisme dont vous parliez tout à l'heure.
Il y a des déçus de gauche et des déçus de droite. Il y a des gens qui ne supportent pas l'idée d'un parti de gauche au pouvoir, mais il y a aussi des gens de gauche qui n'ont pas du tout apprécié qu'il arrive au pouvoir en étant le seul parti structuré autour d'un programme éthique, un peu chevalier blanc, et qui se vautre dans la corruption juste après. Il a perdu des deux côtés.
Hervé Théry, le duel en tout cas qu'attendent les Brésiliens est assez inédit, puisque l'on a d'un côté donc cet ancien capitaine de l'armée, nostalgique de la dictature militaire, et puis un grand écart avec ce professeur de sciences politiques, Fernando Haddad. Qu'est-ce que cela dit de cette société brésilienne aujourd'hui ?
Ça dit une chose curieuse, parce qu'en fait, les soutiens du professeur d'université, qui est mon collègue à l'USP d'ailleurs, sont plutôt dans les classes populaires, et plus les gens sont éduqués, d'après les analyses qu'on a maintenant, plus ils vivent dans des endroits développés, plus ils votent pour Bolsonaro, qui est une sorte d'inculte borné, ou en tout cas qui joue ce rôle-là. Donc on est un peu à front inversé pour ce qui est de la personnalité des candidats, mais sur le fond de l'électorat, c'est vraiment droite-gauche et largement classe populaire versus classe aisée.
Donc une haine de classe, vous parliez de haine de classe aussi concernant cette élection.
Je pense que oui, enfin, quand on entend les conversations dans la rue, dans la famille ou autre, puisque j'ai une femme brésilienne, donc j'ai accès à une famille brésilienne, des gens que je considérais comme éduqués, bien élevés, etc., disent des choses épouvantables. Vraiment, on a soulevé le couvercle et ça fait remonter des choses pas très claires.
Merci beaucoup. Pardon, merci, je vais devoir vous couper. Merci Hervé Théry pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur émérite au CNRS, spécialiste du Brésil, enseignant à l'Université de Sao Paulo. Et bonjour Marie Normand.
Bonjour.
Vous avez feuilleté pour nous la presse suite à ce premier tour de l'élection présidentielle au Brésil.
Oui, elle revient bien entendu, Anne, sur cette vague non pas conservatrice, écrit au Globo, mais bien bolsonariste. Le grand journal brésilien analyse ces résultats comme le faisait à l'instant votre invité, comme la combinaison d'un mouvement anti-PT et d'un rejet des partis traditionnels pour cette première élection après le scandale des pots de vin Lavage à taux. La presse s'étonne surtout du score final de Jair Bolsonaro. Pour la revue Veja, il est la figure la plus influente désormais de la scène politique depuis Lula. Le journal Extra rappelle que son parti social-libéral n'avait qu'un seul député en 2014 contre 50 élu hier à l'Assemblée. C'est donc la deuxième force politique derrière le PT.
Le Parti des Travailleurs qui remporte 49% des suffrages dans une région.
Oui, dans le Nordeste, Folia de Sao Paulo raconte d'ailleurs que cette région fait l'objet de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Redessiner donc cette région en Cuba ou Venezuela du Brésil sur une carte du pays. Correio Brasiliense note aussi ce hashtag Fica Temer, Temer reste, en référence à l'actuel président bien sûr. Actuel président qui est pourtant massivement rejeté par la population, mais qui semble finalement aujourd'hui un choix plus raisonnable que les deux autres candidats qui polarisent cette opinion brésilienne.
Et l'information, Marie, est à la une de la presse du continent.
Et partout à la une du Wall Street Journal comme Del Colombiano, ces mêmes images de supporters de Jair Bolsonaro en liesse. Le Brésil entre deux extrêmes, titre El Espectador qui insiste. Bolsonaro comme Haddad ont 20 jours pour conquérir de nouveaux électeurs. Une tâche difficile car ils sont aussi les candidats avec le plus fort taux de rejet. El Tiempo écrit que, bien que Bolsonaro n'ait pas gagné au premier tour, ses alliés de l'extrême droite ont obtenu de grandes victoires au niveau des États. Le journal note aussi l'influence des évangélistes dans cette campagne. Les évangélistes qui représentent plus d'un tiers de la population brésilienne aujourd'hui. La Repubblica écrit pour sa part que cette polarisation inédite n'a pas permis de renforcer une option centriste. Pour le journal péruvien, les codes de la politique brésilienne ne sont que l'héritage des 12 ans de l'ère Lula. Les Brésiliens, écrit le journal, semblent plus disposés aujourd'hui à voter pour le passé que pour l'avenir.
À la une également, Marie, ce séisme en Haïti qui a fait 12 morts selon un dernier bilan d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter. Il a touché le nord-ouest du pays. L'aide médicale commence seulement à arriver dans les centres de santé de la région. Les autorités rapportent le chiffre de 188 blessés qui ont afflué dans les minutes qui ont suivi la secousse vers l'hôpital de Port-de-Paix, l'une des communes les plus affectées. L'établissement est en première ligne et doit parer au plus pressé avec très peu de moyens. Les médecins doivent opérer bien souvent sans courant. Notre correspondante à Haïti, Amélie Baron, a rencontré le docteur Paul Miclaude qui témoigne du dénuement total dans lequel travaille le service des urgences sur place.
Il y a directement des traumas, donc des fractures. Mais on est là, quand bien même, pour recevoir les patients et les patients.
Vous manquez de tout?
Ah, presque de tout. Presque de tout.
Qu'est-ce qui vous manque?
Ce sont les patients donc, qui sont en train d'acheter directement les médicaments, donc les gants. Donc malgré donc elles sont traumatisées ou ils sont traumatisés, donc ils ou elles sont obligés donc d'acheter leurs médicaments.
Alors que la maison vient d'être détruite, c'est ça?
Évidemment. La maison détruite, donc, il y a beaucoup de problèmes. Ça dit donc stressé, donc des problèmes psychologiques, tout ça.
Et on leur demande de payer pour tout parce que il y a rien.
Est-ce que pour tout parce qu'on n'a pas de gants, on n'a pas de médicaments. On n'a pas même un kit d'urgence. Donc, ça veut dire on n'a pas préparé directement pour ces genres de problèmes, pour ces genres de catastrophes. Il y a l'absence de l'État. Oui, c'est la vérité. Nous aurions donc de l'opportunité de faire donc, et les prises en charge.
Le docteur Paul Miclaude, au micro d'Amélie Baron. Marie, ce nouveau drame en Haïti fait réagir la presse de Miami.
Oui, pour le Miami Herald, cela souligne la vulnérabilité d'Haïti à l'activité sismique et aux dévastations qu'un tremblement de terre de plus grande ampleur pourrait occasionner. Un géologue insiste, il faut évaluer la résistance des bâtiments les plus anciens et des bâtiments publics. comme les postes de police et les hôpitaux. Cela coûtera de l'argent, convient-il, et cela prendra du temps, mais nous devons commencer afin de minimiser, dit-il, les dégâts avant le prochain grand tremblement de terre. Le journal rappelle que le Parlement haïtien n'a toujours pas transformé en loi un code national du bâtiment qui date pourtant de 2012. Des experts déplorent aussi que la première réaction des nombreuses personnes ait été de courir plutôt que de s'abriter sous une table, ce qui prouve, selon eux, qu'Haïti n'a pas suffisamment fait pour préparer sa population.
En bref, Marie, d'autres articles repérés dans la presse américaine de ce lundi.
Et on commence avec le Washington Post qui réclame la vérité sur le sort d'un de ses collaborateurs, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, disparu depuis près d'une semaine et qui aurait été assassiné dans l'ambassade saoudienne d'Istanbul, selon la Turquie, ce qui serait sans précédent, commente le quotidien. Il exige des réponses de Riyad, d'Ankara et un engagement plus fort de Washington. USA Today revient pour sa part sur l'info People de ce week-end. Elle, c'est bien sûr Anne, la célèbre Taylor Swift. Habituellement, ses fans en savent beaucoup sur ses chats ou ses ex-petits copains. Mais jusqu'ici, elle n'avait pas dit grand-chose, hein, note le journal, sur la politique. Eh bien, c'est fait. Depuis hier, elle soutient ouvertement les candidats démocrates de son état d'origine, le Tennessee. Et ce, dans un très long post sur Instagram. Elle a, tenez-vous bien, 112 millions d'abonnés. Et posté il y a moins de 24 heures, eh bien, son message récolte déjà plus d'un million. 300 000 j'aime.
Merci beaucoup Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques.
Le journal de l'Outre-mer.
Et tout de suite, c'est l'heure du journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
Face aux défis posés par l'arrivée et surtout le pourrissement des algues sargasses, les aires d'épandage et de séchage se multiplient en Guadeloupe.
Oui, c'est le plan sargasse qui prévoit le transport des algues brunes et leur épandage, d'où l'ouverture déjà en Guadeloupe d'une vingtaine de sites. Notre confrère Pascal Pétrine de La Première Guadeloupe s'est rendu sur le dernier en date à Anse-Bertrand, à l'extrême nord de la Grande Terre. Reportage.
Nous sommes à la Grande Vigie sur une zone concédée par l'Office National des Forêts pour servir de site d'épandage. D'une superficie de 2400 m², c'est la plus grande en termes de capacité d'accueil, mais aussi et surtout un site test pour gérer de manière optimale le processus d'épandage. Willy Seyi, chargé de mission Sargasse du syndicat intercommunal pour la mise en valeur des sites touristiques, mis à disposition de la cellule Pulsar au sein de la sous-préfecture.
Le but de la manœuvre, c'est d'épandre la sargasse sur une hauteur de 10 cm. En épandant la sargasse, on optimise le contact avec l'air, on favorise des émanations. Nous sommes sur une zone qui est fortement ensoleillée et très ventilée. Donc au bout de 48 heures, normalement, on a un séchage. Donc la zone ici est subdivisée en deux parties. Une zone pour l'épandage, épandage et séchage, et une autre zone qui va permettre de stocker la sargasse qui a séché. Et lorsque celle-ci sèche, elle est compactable et peut être stockée de l'autre côté de la zone d'épandage.
Une gestion innovante de site qui va de pair avec l'appel à projet qui vient d'être lancé par la région. Un appel destiné à prendre en compte l'ensemble de la problématique liée à l'invasion de ces algues brunes.
En Martinique maintenant, l'incroyable défi d'un petit bonhomme de 10 ans, Christophe. Il est arrivé hier sur la plage de Chelcher après avoir passé 10 heures dans l'eau en pleine mer. Plus qu'un défi sportif, un geste d'amour pour sa maman qui souffre d'un cancer du sein. Les derniers kilomètres ont été éprouvants, il a même pleuré, mais il a tenu jusqu'au bout. Christophe est au micro de Manuel Larade.
Je me sentais confiant au début, mais il y avait la traversée de la baie que je n'avais pas, que j'étais pas prêt à souffrir comme ça.
Il y avait des moments de fatigue, c'était ça?
Oui.
Et comment t'as fait pour vaincre ça?
Ben, je me disais, bon, il y a trop de personnes derrière moi, donc il faut que je réussisse, donc voilà.
Et qu'est-ce que ça te fait de voir autant de monde?
Ben, au moins ils soutiennent les enfants malades.
Et qu'est-ce que t'as envie de dire justement pour ces enfants malades?
Ben, qui croient et qui vont guérir.
Et dis-moi, tu vas encore faire d'autres défis comme cela?
Oui, mais faut pas le dire.
Et ce sera plus long?
Oui, bien sûr.
Et hier, c'était 25 kilomètres. 25 kilomètres pour ce petit bonhomme de 10 ans. Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci pour ces belles histoires, Benoît Ferrand. Bon après-midi à vous. C'est la fin de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, midi 10, temps universel. En attendant, vous nous retrouvez sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux et sur notre site internet www.rfi.fr. Nouveau.